J'ai reçu un certain nombre. Ça marche pas ce truc-là ? Ça marche ? S'il vous plaît. J'ai reçu plusieurs pouvoirs pour cette séance. Jacques Fromme sera représenté par Christine Mazzi, Joachim Verdier par Daniel Maire, Aline Triolet par Pascal Marniquet, Astrid Tussaud par Édouard Abon, Sébastien Durançois par Chantal Clément et Benoît Moitier par moi-même, mais il arrivera. Il a prévenu qu'il arriverait un peu en retard. Il arrivera en cours de séance. Je vous invite à désigner un secrétaire de séance. L'usage veut que le plus jeune membre de l'Assemblée remplisse cette fonction. Je vous propose donc de désigner Édouard Abon comme secrétaire de séance. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous en remercie. Mes chers collègues, les statuts de la communauté d'agglomération des Pernets-Coteaux et Plaines de Champagne ont été modifiés afin de tenir compte des nouvelles compétences obligatoires au 1er janvier 2018 et mettre à plat les compétences optionnelles en application des dispositions de l'article L5211-17 du Code général des collectivités territoriales. Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur cette modification statutaire. Nous avons eu l'occasion déjà d'en débattre lors du conseil communautaire, puisque après le conseil communautaire, c'est le conseil municipal qui doit se prononcer dans les mêmes termes. Pas de questions. Nous avions eu un débat en son temps sur le sujet. Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant. Rapport numéro 3, communication des décisions de justice. Avez-vous des explications, mes chers collègues, à demander sur les décisions de justice mentionnées dans le rapport en votre possession ? Elle concerne, je crois, essentiellement la maison Brooks, hein, avec qui on a eu quelques soucis, celle qui avait décidé de repeindre sa façade en rouge. Vous avez noté qu'entre-temps, la société a fait les travaux nécessaires sous la pression de la ville et de l'architecte des bâtiments de France et du procureur de la République. Et entre-temps, la société qui avait contesté les règles applicables à Épernay par un mémoire en date du 21 août, cette maison s'est désistée de sa requête. Autant dire qu'il n'y a plus de litige aujourd'hui et donc je vous en apporte la communication par le présent rapport. Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport concernant le ballon captif. Il s'agit d'une prise de participation d'Agencia dans la SEM d'investissement et d'exploitation. Lors de sa réunion du 9 octobre 2017, le conseil d'administration d'Agencia a validé le projet de prise de participation dans la société d'économie mixte, ayant pour objet de promouvoir l'attractivité et le développement touristique des Pernets en assurant la gestion complète du projet de ballon captif. Cette SEM ballon captif sera à terme capitalisée à hauteur de 322 500 euros. Agencia en sera actionnaire à hauteur de 30 375 euros, soit 9,14% du capital. Conformément au texte, il convient que le conseil municipal approuve la prise de participation d'Agencia et autorise son représentant au conseil d'administration d'Agencia à se prononcer sur cette prise de participation conformément au terme de la présente délibération. Je rappelle que la SEM Agencia a pour principal actionnaire la ville de Reims et l'agglomération de Reims et a également comme actionnaire important la Caisse des dépôts à qui le projet a été présenté et qui a souhaité qu'Agencia donc y participe. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? On a longuement débattu de sujet. Monsieur Lefebvre, non ?
Oui. Je suis naturellement pour l'intégration d'Agencia en tant qu'actionnaire de la SEM, du ballon captif, mais contre le fait qu'elle soit chargée de la gestion administrative et financière. Donc, pour ma part, elle ne peut être actionnaire et gestionnaire. Donc, lors de la dernière réunion, ça a été repoussé sur ma proposition. Donc, je souhaiterais que ça continue, puisque Agencia nous avait donné comme un document très fourni sur les missions qu'elle espérait faire. Et puis, la deuxième chose... Donc c'est
alors, on est d'accord que ce n'est pas l'objet du rapport. Hein.
Non.
L'objet du rapport, c'est la prise de participation d'Agencia. Il appartiendra au conseil d'administration de
non,
confier...
Non, c'était pour votre position personnelle.
Voilà. Il appartiendra au conseil d'administration de confier ou pas à Agencia, c'est-à-dire en clair à Agencia ou à quelqu'un d'autre, le suivi administratif de la gestion d'une SEM, ce qui nécessite évidemment un minimum d'expérience en la matière.
Oui. La deuxième suggestion, c'était que dans, je crois que l'intégration, la modification des statuts, ça entraîne une dépense de 4 000 euros hors taxe. Et donc, il avait été question que d'autres actionnaires soient intégrés, notamment la Caisse d'épargne. Donc, pourrait-on pas regrouper ces actionnaires, les intégrer en même temps pour éviter ces frais de 4 000 euros ?
D'accord.
Plus de 4 000 euros à chaque fois.
Oui, de toute façon, la question est actuellement pendante à la Caisse d'épargne. Effectivement, si modification des statuts doit y avoir et publications diverses, publications obligatoires, il serait souhaitable que ça se fasse en une fois. Donc là-dessus, je verrai avec Benoît Moitié pour qu'effectivement cette solution soit étudiée, ce qui éviterait d'avoir à chaque fois qu'un actionnaire nouveau rentre, de faire une publication nouvelle, ce qui évidemment ne serait pas une économie en la matière. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? 3 abstentions. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4B. Christine Mazzi.
Merci, Monsieur le maire. En application de la réglementation en vigueur, je vous invite à constituer une provision à hauteur de 12 975,81 € pour couvrir les risques juridiques pouvant résulter des dossiers contentieux qui sont mentionnés dans le rapport en votre possession.
Merci. Des questions ? Pas de questions. Vous avez les explications dans le rapport. Hein. Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4C, Christine Mazzi.
Il s'agit du recrutement d'un animateur d'opérations urbaines hypercentre en contrat à durée indéterminée. Le contrat actuel de l'animatrice, qui a bénéficié de 2 contrats de 3 ans successifs, arrive à échéance le 30 novembre 2017. Il vous est demandé d'autoriser l'évolution du contrat à durée déterminée de l'agent en contrat à durée indéterminée.
C'est un peu le débat qu'on avait eu, Madame Perrin, il y a quelques jours, hein, sur le fait qu'au bout de 2 contrats de 3 ans, on peut bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. C'est le cas en l'occurrence.
Si ma position en doute. Donc la loi Sauvaguet de 2012 permet aux contractuels de la fonction publique de devenir titulaires sous condition via les recrutements réservés ou les sélections professionnelles. Ce dispositif devrait s'étendre le 13 mars 2016. Il a été reconduit jusqu'en 2018 pour un certain nombre d'agents contractuels des 3 fonctions publiques. Enfin, je ne vous fais pas l'article.
Oui, non, mais là, on n'est pas
sûr. Donc il y a un vrai choix délibéré de mettre en CDI et de ne pas stagiariser.
Non, alors, si je peux répondre, donc là, ça concerne le fait de. Les agents de catégorie C. En ce qui concerne les agents de catégorie B et de catégorie A, ils sont soumis, bien sûr, à un concours s'ils souhaitent être stagiarisés. Il n'y a pas d'accession directe. Il n'y a pas d'accession directe pour les agents de catégorie B et de catégorie A. L'accession directe ne concerne que les agents de catégorie C.
En l'occurrence, sans trahir de secret, l'agent concerné n'a pas réussi l'examen professionnel qui lui aurait permis de passer titulaire, d'où cette solution alternative. Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le dossier est donc adopté. Nous passons à la délibération suivante. 4D, Christine Mazzi, toujours.
Donc, il s'agit du recrutement d'un apprenti agent d'entretien des espaces verts. Je vous propose donc de vous prononcer sur ce nouveau recours à l'apprentissage et d'accepter de recruter un apprenti qui sera accueilli au sein du service des espaces verts sur la base d'un profil d'agent d'entretien et préparera un diplôme de niveau 4, donc un bac professionnel. Le contrat sera alors conclu pour une durée de 3 ans maximum à compter du 1er décembre prochain. Le recrutement vient d'être entériné. La prise de poste sera effectuée le 1er décembre. Il s'agit d'une jeune fille, donc en bac pro, et qui partagera son temps donc, entre la collectivité au sein du service espaces verts et le CFA agricole de l'Aube.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Rapport 4E, Christine Mazzi.
Donc il s'agit de l'adoption du rapport de la CLECT, donc la commission locale d'évaluation des charges transférées. La CLECT a pour rôle principal de procéder à l'évaluation des charges qui sont liées au transfert de compétences entre les communes et le PCI à fiscalité professionnelle unique. Vous avez en annexe le rapport de la CLECT qui a été adopté le 31 août dernier et qui comprend les rappels méthodologiques, notamment les méthodes d'évaluation et qui liste les compétences transférées et concernées par l'évaluation et qui propose enfin la synthèse des transferts qui conduit aux attributions de compensation. Donc, l'attribution de compensation, elle a pour rôle, d'une part, de neutraliser les acquis des communes avant le passage en taxe professionnelle unique, et d'autre part, de garantir à l'EPCI de disposer des moyens pour financer ses charges transférées.
Oui, je rappelle qu'à la différence de l'État qui n'opère pas de la même manière et qui ne transfère généralement pas les moyens liés aux charges transférées aux collectivités, et ce depuis de très nombreuses années, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, entre collectivités, il existe un dispositif qui prévoit que quand il y a transfert de compétences, dans un sens ou dans l'autre, montant, c'est-à-dire de la ville vers l'intercommunalité ou descendant vers l'intercommunalité et la ville, avec le transfert de la compétence est transférée l'intégralité des charges correspondant à la compétence exercée préalablement. Et ça se fait au centime près. C'est la raison pour laquelle il y a eu, dans le cadre de la CLECT, et notamment avec les communes du territoire de Vertu, de longues séances d'explications, de démonstrations à l'appui, parce qu'effectivement, ça perturbe beaucoup les esprits, ce qui est tout à fait logique, mais en même temps, ça correspond à quelque chose qui est parfaitement identifié et cerné au centime près. En l'espèce, quand de notre côté, il y a transfert de compétences sur la partie politique de la ville qui a été, qui n'est pas toute la politique de la ville, mais la partie qui est concernée par le transfert à la communauté d'agglomération, il a fallu effectivement quantifier exactement le coût de chaque poste, les charges correspondantes qui sont transférées en même temps que la compétence à la communauté d'agglomération, ce qui fait que la communauté d'agglomération récupère la compétence avec l'intégralité des recettes correspondantes, ce qui fait que c'est en tout cas pour la première année, c'est une opération blanche quand elle se passe dans ce sens-là, tout comme quand elle se passe dans le sens inverse, si elle vient de l'intercommunauté vers la ville. C'est un système assez complexe, je dois le reconnaître, parce qu'il nous a fallu pas mal de séances de formation et d'explication pour faire passer le message à tout le monde, mais qui neutralise l'impact qui neutralise l'année N, c'est-à-dire l'année du basculement des compétences, l'impact du transfert de compétences. Il va de soi que si dans les années qui viennent, d'autres personnes sont recrutées ou simplement l'évolution des agents concernés se traduit par une dépense supplémentaire, c'est à ce moment-là la nouvelle collectivité qui assume ses dépenses et plus l'ancienne. Est-ce que j'ai été à peu près clair ? Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Pas de questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport 4F, toujours dans les finances, cette fois la décision modificative numéro 4.
Donc dans cette décision modificative, donc cela concerne dans un premier temps le budget ville, donc il y a un certain nombre d'écritures d'ordre, notamment pour un montant de 57 000 euros des travaux qui sont liés au transfert du conseil des prud'hommes à la mairie annexe de quartier Bernon. Également sont inclus pour un montant de 44 000 euros des travaux de réfection des toitures et toitures terrasses sur la copropriété des 11 et 13 rue Jean Mouette. Sont impliqués aussi des transferts de crédits d'investissement donc qui passent d'investissement en fonctionnement pour la restauration de la chapelle de la famille Plon suite à un rejet de la recette municipale, puisque dans un premier temps, nous avions inscrit les crédits en investissement et la recette municipale nous a demandé de passer ces crédits en fonctionnement. Il y a le remplacement de la 3008 avec une reprise de 12 000 euros, un complément de subvention d'équipement à l'Office du tourisme pour 6 800 euros, et ça concerne la prestation relative à la fabrication des versions doublées en anglais pour les spots Avenue de Champagne pour Skyboy. Il y a également l'annulation de crédit d'éviction aux rues suite à la finalisation des opérations du linéaire commercial de Bernon, donc pour un montant de 123 000 euros. Et puis, une participation de la CAF à hauteur de 3 000 euros qui concerne la mise en place du module 2 de la formation parents d'adolescents, à savoir que la ville participe à hauteur de 800 euros. Et puis, concernant le budget des cellules commerciales de Bernon, donc l'ancien linéaire commercial, nous avions attribué des crédits. Donc, nous percevons des crédits complémentaires pour des travaux de déconnexion du réseau de chauffage qui sont financés par une participation complémentaire de la région Grand Est.
Merci. Des questions sur l'ADM ? Pas de questions. Avis contraire ? Abstention. Le rapport est adopté. Rapport 4G, attribution de subvention. Toujours Christine.
Donc, divers groupements et organismes ont adressé des demandes de subventions auxquelles je vous propose de répondre favorablement, en attribuant les sommes qui sont énumérées dans le rapport en votre possession. Vous retrouverez d'ailleurs la subvention à l'Office de tourisme pour 6 800 €.
Y a-t-il des questions ? Oui, monsieur Lefebvre ?
Oui.
Donc, c'est une participation, donc la traduction à l'application.
Donc, concernant la participation à la traduction en anglais de l'application mobile Skyboy, donc nous versons une subvention de 6 757 €. C'est une participation. Donc, je voulais savoir quel est le prix réel total de la traduction.
On posera la question à Benoît Moitié, mais je pense que c'est la totalité qui est là. Puisque c'est une application qui est propre à la ville, hein, qui est portée par l'Office du tourisme. Mais Benoît Mathieu va arriver tout à l'heure. On lui posera la question pour avoir le détail.
Une prise en charge intégrale et non une participation. Alors.
Oui, dans ce cas-là, effectivement, il y aurait... mais c'est à vérifier. Hein, c'est mon sentiment, mais on vérifiera quand Benoît arrivera tout à l'heure.
Je pense que c'est la totalité.
Pas d'autres questions ? Avis contraire ? Abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons avec Christine Mazzi, protocole d'accord concernant Mme Randan.
Alors, dans le cadre des travaux de réhabilitation et de remise aux normes du parking des Arcades, rebaptisé parking du centre-ville, la place de stationnement qui a été restituée à Mme Nicole Randan dispose d'une superficie inférieure à celle de l'ancienne place en raison de contraintes techniques. Suite à des négociations, le coût des travaux dus par Mme Nicole Randan a été ramené de 4 180,06 € à 3 540 €, afin de tenir compte du préjudice subi. La transaction destinée à finaliser l'accord conclu entre les parties fait l'objet d'un protocole d'accord qui est annexé au rapport en votre possession.
Oui,
vous propose d'accepter ce protocole.
En fait, le tarif a été proratisé
à la surface. À la superficie.
D'accord. OK. Des questions ? Oui,
oui,
je suppose. Je suppose, sinon elle l'aurait refusé.
Sinon, on n'appellerait plus ça une place de parking. Je ne suis pas sûre qu'elle en ait une.
Bon, si vous... pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Rapport 4I, Christine Mazzi.
Donc, il s'agit de conventions de partenariat entre la ville d'Épernay et diverses associations ou personnes. Donc, il y a 4 conventions. La première concerne le comité de l'avenue de Champagne et l'association Flago Légende qui souhaitent être partenaires des Habits de Lumière 2017 et s'associer notamment à la parade automobile. La deuxième convention concerne Michel Maillard, qui souhaite renouveler son partenariat pour les Habits de Lumière en mettant à disposition ses locaux Avenue de Champagne pour la bonne organisation de l'événement. La troisième convention, dans le cadre donc du club des partenaires de l'Avenue de Champagne, la société Person souhaite être partenaire de la manifestation Les Habits de Lumière en 2017 avec la mise à disposition de matériel. Et enfin, le lycée Avis Viticampus souhaite renouveler son partenariat pour les Habits de Lumière en mettant à disposition des étudiants afin d'assurer le service lors du cocktail d'inauguration et lors de l'animation Habits de Saveur.
Oui, alors ce sont des rapports qu'on a régulièrement chaque année, puisque chaque année, des partenariats sont à renouveler ou de nouveaux partenariats apparaissent. Donc c'est dans ce cadre-là que s'inscrit la présentation de ces différentes conventions. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Nous arrivons au rapport 5 à Magali Carbonel.
Voilà, ça concerne les frais de scolarité des élèves scolarisés dans les écoles publiques d'Épernay. Donc le code de l'éducation précise que les communes de résidence participent aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques situées sur une commune extérieure et accueillant des enfants domiciliés sur leur territoire. Donc, il convient de fixer la participation des communes aux dépenses de fonctionnement uniquement des écoles publiques pour l'année scolaire 2016-2017, à 2 392 € pour un élève en maternelle et 998 pour un élève scolarisé en élémentaire. On peut peut-être préciser que sur 2 ans, nous avons eu 4 ouvertures de classes en maternelle, dont 3 pour les tout-petits, et qu'à Épernay, il y a une ATSEM dans chaque classe à la maternelle.
Ce qui explique l'augmentation des coûts, puisqu'il y a
la
répercussion des coûts de personnel.
Des coûts de personnel, puisque c'est essentiellement les coûts de personnel, les agents donc pour la restauration et d'entretien, et puis les ATSEM en maternelle. Et puis nous avons aussi deux nouveaux sites de restauration, enfin un nouveau, horticulture, et puis la réhabilitation mise aux normes de Gencelin, hein, donc d'où du personnel supplémentaire également. Ceci
Merci.
Explique effectivement l'augmentation du coût.
Merci Magali. Des questions ? Pas de questions, avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Pierre Marandon, rapport 6A.
Merci Monsieur le maire. L'Association nationale des élus en charge du sport a vocation à favoriser les échanges, les réflexions et les expériences en matière de politique sportive, à assurer également une mission d'assistance, de défense et de conseil en matière juridique et à représenter les collectivités auprès de l'État, du mouvement sportif et des différents organismes partenaires. Le coût de l'adhésion annuel pour la ville d'Épernay s'élève à 450 euros. Je vous invite donc à adopter cette délibération qui, par ailleurs, autorisera l'adjoint au maire chargé des sports à représenter la ville auprès de l'ANDES.
Merci. Des questions ? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Nous passons au rapport suivant. Rapport 6B, toujours Pierre Marandon.
Oui, il s'agit, comme chaque année, d'établir la valorisation de mise à disposition des installations sportives au service des associations sparnassiennes, pour un montant global de 1 8 694 euros. Sachant qu'il s'agit en fait d'une disposition à titre gracieux que les clubs doivent inscrire au chapitre charges et recettes de leur bilan financier. Quant à la délibération concernant la mise à disposition d'éducateurs, elle sera présentée en début d'année 2018.
Merci. Des questions ? Là aussi, c'est un rapport auquel nous sommes familiers, puisque tous les ans, nous
le faisons.
Avis contraire, abstention, le rapport est adopté. Rapport 6C, ça concerne la bourse Réguron-Garrigue.
Oui, merci Monsieur le maire. La commission municipale en charge de l'allocation Réguron-Garrigue ayant proposé d'accorder 3 aides exceptionnelles, il convient de soumettre cette délibération au vote du conseil municipal. Pour compléter votre information, le legs effectué par Madame Réguron s'élevait à 343 961 euros au profit d'étudiants sparnassiens, dits méritants, selon des critères qu'elle avait elle-même proposés. 718 bourses pour 454 jeunes ont d'ores et déjà été accordées pour un montant total avant délibération de ce jour de 263 147 euros. Le solde actuel après attribution et compte tenu que l'argent est placé est de 185 000 euros. Pour cette promotion, 42 dossiers ont été examinés, 3 ont été refusés pour des questions de ressources, redoublement ou d'étudiants en première année. 3 exceptionnels ont été proposés compte tenu d'un parcours scolaire remarquable et de ressources légèrement supérieures au barème fixé. Je vous invite donc à adopter cette délibération. Le montant pour cette année s'élève à 23 030 euros.
Merci. Y a-t-il des questions ? Oui, M. Angers.
Non, simplement, on pourra bénéficier de la liste des attributaires.
Pas de problème. Il y a une commission donc, qui s'est réunie juste le lendemain des vacances de Toussaint, donc a délibéré sur les dossiers présentés. Et bien sûr que la liste est sans problème peut-être communiquée.
Je pense que... On vous communiquera la liste à l'ensemble du conseil. Je m'étonnais qu'elle ne soit pas là d'ailleurs. On a évoqué simplement que les bourses exceptionnelles, mais les bourses ordinaires, il faut aussi les mettre.
C'est-à-dire que ça doit être présenté en conseil dès lors qu'il y a bourse exceptionnelle.
Oui,
sinon,
mais
ça entre dans les critères.
Pour l'information,
bien sûr. Oui. Pour information, déjà, on l'a présenté en commission et il me paraît légitime de le présenter aussi au conseil municipal.
Pas d'opposition. Madame Perrin.
Oui. La question, si tu veux, effectivement, je sais, je connais, je comprends bien en plus ton problème. La question, c'est que les jeunes doivent déposer leur dossier avant les vacances de Toussaint. Donc, ils sont instruits pendant les vacances et on souhaite que l'attribution puisse être faite avant Noël. Donc, il fallait que je la présente en commission mardi dernier. Le lundi soir, en général, étant déjà pris, c'est pour ça qu'on l'a faite lundi midi. Et je sais que déjà l'an dernier, il y a eu ce problème-là. Il faudrait peut-être qu'on essaie de la faire le lundi soir.
Bien.
Oui.
Pas d'opposition, pas d'abstention. Le rapport est adopté. Nous poursuivons par Christian de Mongin, rapport 6D.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose d'approuver la modification du règlement intérieur de la salle de lecture du service archives documentation Cette modification portant sur quelques détails, les horaires, article 1, l'usage exclusif de crayons de bois, article 6, et la reproduction à partir de documents numériques, article 17.
Merci. Des questions ? Pas de questions ? Pas d'opposition ? Pas d'abstention ? Le rapport est adopté. Nous poursuivons par le rapport 7A, Anne-Marie Legras.
Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, je vous propose de céder à Monsieur et Madame André Bergère un terrain de 171 mètres carrés situé 6 rue Jean Mouette. Cette cession s'effectuerait au prix de l'estimation de France Domaine, soit 43 000 euros hors frais pour prix d'acquisition à la charge de l'acquéreur.
Merci. Vous avez le plan qui se situe derrière. Des questions, Monsieur Lefebvre ?
Oui, je l'ai dit en commission. J'avais vu qu'il y avait du ménage qui était fait, des arbres coupés à côté. Il y a un certain temps, la porte était ouverte. Je m'étais dit, il faudrait que je propose au conseil municipal d'acheter cette petite parcelle proche de la mairie, inclus. Et donc, voilà, pour ma part, je suis étonné qu'on vende un morceau qui pourrait certainement servir à la mairie. On ne sait pas ce qui peut arriver dans les années à venir. On ne réduit pas une parcelle comme ça. Surtout avec un beau jardin et un bel immeuble comme ça. On a besoin de parking, on a besoin d'autre chose. Je pense que cette parcelle serait utile dans l'avenir.
Alors la ville est propriétaire de cette parcelle depuis au moins 15 ou 20 ans, je dirais. Et on n'en a jamais rien fait parce qu'en fait, elle est située dans un endroit qui est très... voilà, il y a une différence de dénivellation extrêmement importante par rapport entre le niveau de cette parcelle et le niveau du parking. On a effectivement déjà à plusieurs reprises imaginé un développement sur cette parcelle, mais sans avoir de réels besoins. Donc là, on a une proposition d'acquisition qui permet en plus de conforter un projet hôtelier compte tenu des contraintes d'accessibilité. Ça nous a paru pertinent parce qu'on ne peut pas garder des parcelles qui ont de la valeur et dont on n'a pas l'usage. Au bout d'une quinzaine d'années, je pense que si on avait eu l'opportunité de l'utiliser, on l'aurait fait depuis longtemps. Je me rappelle qu'autrefois, il y avait une maison très délabrée sur cette parcelle qui a été démolie ou qui a dû s'effondrer largement d'elle-même. Et à part aujourd'hui stocker les poubelles du voisin, on n'en faisait rien. Donc je pense que c'est une bonne politique que de vendre le foncier qui n'est pas utilisé. Avis contraire sur ce rapport ? Abstention, une abstention, le rapport est adopté. Nous poursuivons avec, je crois, Daniel Maire.
Oui.
Oui, pour le rapport 7B.
Merci, Monsieur le Maire. Dans le cadre de leur programme de travaux 2017-2019, la ville d'Épernay et le conseil départemental vont mener la reconstruction de l'ensemble de la voirie de la Mue Jean-Jaurès à Épernay. La communauté d'agglomération interviendra également pour renouveler à cette occasion les infrastructures eau et assainissement de cette avenue dans sa section giratoire entrée de ville. Je vous propose d'approuver la convention de maîtrise d'ouvrage unique à conclure dans ce dossier.
Vous l'avez compris, évidemment, compte tenu de la lourdeur de l'opération, il nous a semblé souhaitable d'avoir une maîtrise d'ouvrage unique s'agissant à la fois d'une intervention de la communauté d'agglomération sur les réseaux, de la ville sur les trottoirs et du département sur la chaussée. C'est ce que nous avons toujours fait dans ce genre de situation. Donc, au regard de ce chantier qui s'annonce assez complexe, parce que, outre l'ampleur du chantier qui va partir du bas de la place...
Qui est parti, jusqu'à
la limite de Mardeuil, ça va s'opérer. Alors, une phase a été terminée, la deuxième phase va commencer en tout début d'année de mémoire, et la troisième phase l'année prochaine. Effectivement, il convient en milieu urbain de veiller à ce que la maîtrise d'ouvrage unique soit retenue pour faciliter, accélérer le travail des entreprises, assurer la surveillance du chantier et le lien avec l'ensemble des riverains, ce qui me semble tout à fait judicieux. Y a-t-il des questions sur ce rapport ? Oui, Monsieur Lefebvre.
Voilà. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, les travaux de l'avenue de Jean Jaurès sont en cours. Or, l'opposition n'a vu ni plan ni projet. C'est assez révoltant. Vendredi 10 novembre, en commission cadre de vie, je suis intervenu pour manifester contre la non-présentation du projet. La réaction immédiate des élus de la majorité a été de dire, je cite, « Nous l'avons vu à plusieurs reprises, tu ne devais pas être présent en commission ». Je précise que les trois autres membres de l'opposition présents en confirmer mes dires. Sûr de mon affaire et ayant déjà été victime d'une telle situation, j'ai demandé alors avec insistance qu'apparaisse mon indignation dans le compte-rendu de la commission. Or, celui-ci ne m'attribue qu'une question anodine inscrite en caractère gras. En revanche, il ne parle pas de mon intervention et note seulement en questions diverses, je cite à nouveau, « Certains membres de la commission souhaitent que le projet de l'avenue Jean Jaurès leur soit présenté. Après vérification, nous ne trouvons pas trace dans les précédentes commissions. Le projet de l'avenue Jean Jaurès sera présenté lors de la prochaine commission, programmée le 7 décembre. » Fin de citation. Naturellement, le projet est bouclé. Nous ne pourrons apporter ni nos réflexions, ni nos propositions. Une fois de plus, l'opposition a été écartée. En commençant à en avoir l'habitude à Épernay, je vais vous rappeler quelques exemples significatifs. La mairie de quartier a été mise en service et nous l'avons appris par la presse. Deuxième exemple, la future maison de retraite, dont nous n'avions pas vu les plans. Votre adjointe concernée a donné à la presse une date de présentation en commission, le jour où j'étais en voyage à l'étranger, mais sans qu'il y ait eu de traces dans un quelconque compte-rendu. Et puis, un troisième exemple, les ateliers municipaux du parking Lalo, que nous n'avons jamais visités. Lorsque j'ai demandé cette visite, un élu de la majorité m'a répondu « Tu n'avais qu'à venir le jour où nous l'avons visité ». Mais l'opposition n'a jamais reçu d'invitation. Je pourrais donc encore citer bon nombre d'exemples où nous avons appris par la presse de telle ou telle réalisation. Revenons à l'avenue Jean Jaurès. C'est tout de même regrettable que l'opposition n'ait pas été concertée. Il s'agit d'un projet important pour notre ville et les habitants du quartier. Une véritable vitrine pour les automobilistes arrivant de Paris avec une entrée de ville qui a été longtemps délaissée. De plus, suite à mon interrogation la semaine dernière en commission sur la création d'une piste cyclable, il m'a été répondu que la pente de la rue était trop raide. Chapeau pour une municipalité qui se dit écolo et qui prône l'utilisation du vélo électrique. Participer à la reconstruction d'une des principales avenues et ne pas avoir de piste cyclable est un non-sens alors que l'avenue est large et par conséquent qu'il y a de la place. En conclusion de ce petit propos, avec cette ignorance de l'opposition, on se croirait dans une municipalité des plus réactionnaires alors que votre communication est axée sur la démocratie et l'environnement, l'appel à projet et le vote des Sparnassiens. Vote qui n'a pas attiré les foules, selon la presse locale qui l'a mentionné aujourd'hui. En fait, ce n'est que publicité et poudre aux yeux. J'éprouve donc de la colère, mais aussi beaucoup de déception. Pour ma part, l'opposition devrait être une force de proposition. Malheureusement, vous ne nous en donnez pas l'occasion. Merci de votre attention.
Merci de votre question. J'avoue que je découvre la question que vous posez aujourd'hui. Et si, effectivement, ce projet n'a pas été présenté en commission, c'est pas normal. J'étais persuadé que ça l'avait été. Moi-même, j'ai assisté à plusieurs présentations, y compris d'ailleurs aux riverains, à la presse. Enfin, il y a eu toute une série d'entretiens sur le sujet, de contacts. Ça s'est fait d'ailleurs en parfaite transparence, puisque nous avions le désir d'enrichir ce projet avec les remarques des riverains. Il y a sans doute eu une défaillance. Enfin, je vérifierai évidemment, mais je n'ai pas de raison de ne pas vous croire sur le sujet. En revanche, c'est pas une pratique courante. Je conteste totalement l'appréciation que vous avez faite sur la résidence senior, puisque la résidence senior est construite par le CCAS, a été présentée au conseil d'administration du CCAS et donc a fait l'objet des concertations habituelles sur le sujet. Je ne me souviens plus personnellement de l'histoire de la mairie de quartier. C'est quand même assez ancien. Je n'ai pas souvenir que rien n'ait été dit ni présenté, parce que ça avait été présenté dans le cadre du budget de l'époque et que nécessairement il y avait eu l'information de données. En l'occurrence, sur ce sujet-là, j'avoue que je suis interrogatif et vraisemblablement que mes interrogations personnelles seront confirmées et iront dans votre sens. C'est tout à fait anormal, je le dis très clairement et je le dis à destination de l'ensemble des adjoints qui président les commissions et qui doivent veiller évidemment à ce que tous les rapports qui sont soumis au conseil municipal soient examinés en temps utile par le conseil. En l'occurrence, en temps utile, nous aurait ramené très certainement il y a 9 mois ou 1 an, parce que c'est un projet qui est déjà ancien, qui a fait l'objet de communications, encore une fois, auprès de la presse, mais déjà auprès des habitants, et j'ai le souvenir de plusieurs séances d'explications où les gens posaient des questions, etc. Donc il n'y a strictement rien à cacher, et surtout pas à l'opposition et aux membres qui sont des membres du conseil municipal comme les autres, et qui ont le droit à ce titre à la même information. Donc je m'en excuse, parce que ce n'est pas, absolument pas normal, et je ne sais pas comment on pourra réparer ça, si ce n'est en vous le présentant dans le détail dans les jours qui viennent, mais sur le principe, vous avez parfaitement raison. Candy, tu voulais ajouter un mot ?
Nous avons eu une commission spéciale par rapport à cette résidence autonomie. Marc, s'il te plaît, arrête de dire maison de retraite. Ce n'est pas une maison de retraite. C'est une résidence autonome. Si toi-même, tu ne sais pas le dire, ben comment que les gens vont le transmettre ? Voilà, s'il te plaît. Voilà.
Et il y avait une réunion de commission là-dessus ?
Bien sûr. Et nous avons fait une commission, je me rappelle, c'était une commission avec tout le monde et personne n'était venu.
Il faut le noter dans les rapports.
Oui, mais on l'avait fait.
On ne l'a pas vu dans aucun rapport.
Mais on peut le refaire. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de communication. Il y a eu beaucoup de réunions de quartier.
Mais l'important, c'est que, encore une fois, la communication, c'est une chose. La presse, c'est une chose. Les publics concernés, c'en est une. Je me souviens l'avoir présenté aux personnes âgées moi-même. Mais l'étape de la commission municipale, c'est indispensable.
On l'a fait.
Alors, en l'occurrence, vous voyez, ça a été fait.
Personne n'était là.
Voilà. Mais pour le coup, si ça n'a pas été fait pour l'avenue Jean Jaurès, ça n'est pas normal. Et je souhaite qu'évidemment, ce genre de choses ne se reproduisent pas. Parce que, en l'occurrence, il n'y a pas de procès instruit derrière tout ça, puisqu'il n'y a strictement rien à cacher, puisque le projet a été déjà discuté, rediscuté, retravaillé à de multiples reprises, puisque c'est un chantier complexe. Et ça fait au moins 2 ans qu'on travaille sur ce projet, sachant qu'évidemment, il y a eu un certain nombre de documents de travail intermédiaires, puisque il y a des modifications incessantes sur un sujet comme celui-ci, concernant des problèmes de circulation, des problèmes de tourne à gauche, en montant, en descendant. Enfin, c'est un sujet complexe. La configuration des lieux rend un sujet comme celui-ci complexe. Et je ne vous parle pas du plan de circulation à mettre en place, puisqu'évidemment, c'est un axe important d'Épernay qui va être coupé. Mais encore une fois, s'il y a eu défaillance, je le regrette, et ça n'est pas délibéré, ça n'est pas volontaire. C'est un loupé, probablement, je le regrette. Et encore une fois, je souhaite que vous ayez toute l'information sur ce sujet comme sur les autres. Monsieur Angers.
Oui, monsieur le maire. Moi, je n'étais pas au courant de l'intervention de monsieur Lefebvre. Mais simplement, moi, je voudrais rapporter ça par rapport à une demande récurrente que nous faisons depuis le début de ce mandat avec mes collègues de la liste Épernay Avenir, c'est d'avoir enfin des commissions qui soient prospectives dans leur approche. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'au fil des commissions, elles ne servent qu'à une chose, c'est préparer ce conseil municipal comme si elles étaient là simplement pour déminer nos positions. Moi, je vous demande, je l'ai déjà demandé à plusieurs reprises dans cette enceinte, c'est que l'on fasse vraiment sur certains sujets du débat et de la prospective, et qu'il y ait un échange d'idées et d'opinions. Je pense que c'est quand même la meilleure manière d'arriver autrement que sur la fin que vient de citer Marc Lefebvre. Alors, j'ai peut-être une explication. J'entends votre mea culpa, monsieur le maire, mais j'ai peut-être une explication. Vous êtes peut-être trop occupé, vous avez peut-être trop de mandats, ou vous êtes...
Non,
peut-être qu'il y a une délégation qui n'est peut-être pas à la hauteur de ce que vous espérez dans ce
domaine-là.
Soyons
sérieux, monsieur.
Je ne sais pas, mais il y a certainement réflexion à mettre en place pour qu'on puisse travailler un petit peu plus convenablement et puis essayer de se poser sur les sujets.
Non, mais il y a très clairement un loupé en la matière. Je pense que c'est simplement parce que quand vu l'espacement qui peut exister entre les commissions, j'imagine que la liste des sujets à l'ordre du jour est faite par l'adjoint en lien avec les services, et il se peut tout à fait que, vu le nombre de réunions qu'il y a eu sur ce sujet-là, que les principaux intéressés aient pensé que ça avait été déjà à l'ordre du jour d'une commission, et c'est comme ça que c'est passé à la trappe. Mais il n'y a aucune volonté en la matière, et s'agissant de ma personne, puisque vous me mettez en cause, j'en assume la responsabilité, même si, évidemment, je ne préside pas les commissions, et je n'ai jamais, depuis que je suis maire, présidé à l'organisation d'une commission, pour la simple et bonne raison que, par définition, mes pouvoirs sont délégués pour la présidence des commissions au président des commissions, c'est à eux de le faire. Sur votre intervention concernant le contenu des commissions, je vous rejoins totalement, à savoir qu'une commission a pour objectif, évidemment, d'examiner les rapports du Conseil, mais pas seulement. Et là, ça dépend de la volonté des élus de la commission de solliciter l'inscription à l'ordre du jour ou de la commission présente ou de la suivante tel ou tel sujet. C'est en général comme ça que ça se passe, c'est-à-dire qu'évidemment, en règle générale, quand une commission se déroule et qu'un sujet fait l'objet d'interrogations de la part d'un élu, qu'il soit de la majorité ou de l'opposition, c'est pas forcément lors de cette commission qu'il est évoqué, parce qu'évidemment, il faut pouvoir produire des documents, des cartes, des plans, des statistiques, et des choses comme ça. Et en règle générale, c'est lors de la commission suivante qu'on reprend, mais on le fait dans les instances représentatives du personnel, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand un des membres de la commission souhaite qu'une question soit abordée, il le dit à l'instant T, et à la commission suivante, le sujet est préparé et abordé. Bon, maintenant, je ne sais pas si ça se passe comme ça dans toutes les commissions. Je sais que dans certaines d'entre elles, des discussions peuvent parfois éloigner les uns les autres du sujet prévu à l'origine, mais ce n'est pas plus mal. À partir du moment où un échange d'informations s'opère, à partir du moment où chacun repart chez lui avec le sentiment d'avoir appris ou pouvoir pu discuter sur tel ou tel sujet, ça me semble être une bonne pratique. Donc je réitère ce souhait partagé aujourd'hui en espérant que les choses se mettront en place et que surtout, vous comme les autres élus, si sur tel ou tel sujet vous pensez qu'un éclairage supplémentaire ou qu'un échange prospectif serait nécessaire sur tel ou tel sujet, dans la mesure où l'information est disponible, elle n'a pas à être conservée, elle doit être abordée en commission. Même si d'ailleurs ça ne se termine pas forcément par un vote. Hein. L'idée c'est d'échanger sur la question, de faire un point, de revenir régulièrement le cas échéant sur certains points parce qu'au fil des mois ou des années, certaines statistiques ou certains sujets méritent d'être à nouveau abordés. Mais c'est ainsi que la commission doit fonctionner. Où est-ce qu'on en était du coup? On est sur le rapport. Y a-t-il d'autres questions sur le rapport? Pas d'autres questions? Avis contraire? Abstention? Le rapport est adopté. Nous passons au rapport numéro 8 concernant les décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal. Avez-vous des explications, chers collègues, à demander sur les décisions énumérées dans le rapport qui vous a été adressé? Il nous reste, je crois, d'autres rapports. Oui, un rapport d'activité et puis un rapport d'information. Madame Perrin.
Je voulais intervenir sur la mise à disposition de la mairie de quartier pour le conseil des prud'hommes.
Oui.
Il y a eu des travaux de fait. Or, apparemment, il y a un problème de renouvellement de l'air et non pas de fenêtres qui s'ouvrent. Et il doit y avoir... À l'usage qui en est fait depuis très récemment, là, à la fin de la journée, les gens se plaignent de migraines et de choses de ce type.
Alors, je suis surpris de ce point parce qu'à mon sens, ça fonctionnait. Oui, on a juste un problème sur un extracteur d'air qui est en train d'être réglé. On a eu des problèmes, on a entendu parler par la presse, le milieu professionnel d'abonnement. Internet, mais c'était entre Orange et le conseil de prud'homme. Et là, apparemment, le problème est en voie d'être réglé. Il n'existait pas avant, ce problème. Donc,
non, mais je vous le précise parce que ça m'est revenu.
Oui, non, mais vous faites bien. Vous faites bien. D'autres questions? Monsieur Lefebvre.
La 17, la 3008, c'est la voiture de fonction, non?
Oui. C'est d'ailleurs, on l'a évoqué tout à l'heure dans le cadre de l'ADM également. D'autres questions? Pas d'autres questions, je vous propose...
Excusez-moi, oui. Monsieur le maire. Juste une précision. Hein. La 19, concernant le journal, le magazine municipal, il y a quelques années encore, il était précisé si c'est le nombre d'exemplaires à l'année, par an. Maintenant, ça n'est plus précisé. C'est toujours 11 ou 12 ?
15 000.
Non, excusez-moi, le nombre de parutions.
Ah, c'est 11. 11, il n'y en a jamais au mois d'août. En fait, on fait juillet et septembre.
Parce que c'était précisé dans...
Ça ne change pas.
Merci.
Pas d'autres questions ? Donc, nous passons au point suivant. Communication des résultats des études sur la qualité de l'air par Jonathan Rodriguez. Jonathan. Ah, on a peut-être la... Mais il est où le vidéoprojecteur ?
Ça va s'installer.
Alors, on peut peut-être évoquer l'autre rapport avant, non ? Alors, on va déjà parler du rapport 10 concernant le rapport d'activité de la communauté d'agglomération d'Épernay, Coteaux et Plaine de Champagne. Comme vous le savez, en application de l'article 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, la communauté d'agglomération nous a adressé le rapport portant sur ses activités. C'est un rapport assez classique, hein, nous l'évoquons chaque année. Avez-vous des questions à poser sur ce rapport ? Bon, ça reprend l'intégralité des compétences et des, comme un rapport d'activité des actions menées par la communauté d'agglomération tout au long de l'année 2016. Évidemment, c'est une année un peu particulière, c'était une année de transition. Qui n'est pas qui porte un certain nombre de différences avec celles des années suivantes, puisqu'on sera on est entre temps, comme vous vous en souvenez, passé en communauté d'agglomération. Y a-t-il des questions sur ce rapport d'activité ? Pas de questions, donc on va attendre que le. Vivement les tablettes. Hein. Donc c'est au prochain conseil municipal, je vous signale qu'au prochain conseil municipal, on pourra fonctionner avec les tablettes. Et donc la projection que vous aurez là ce soir. Pardon ? En mixte. La tablette. Et tout le monde a pu bénéficier des formations ou... Oui ?
Quasiment.
Les élus qui auraient besoin de... Qui n'ont pas, donc, Madame Demange. Ce sera la demande. Voilà. Donc n'hésitez pas. Hein, il y a certains élus qui n'ont jamais eu affaire à des tablettes, d'autres qui le savent mais qui ne connaissent pas forcément le dispositif. Il faut que chacun soit bien formé. Donc si même vous pensez avoir besoin d'une deuxième séance, il n'y a pas de honte à avoir. Hein, c'est parfaitement normal. Et en tout cas, la collectivité se doit d'assurer la formation la plus complète possible sur le sujet. Et sur les potentiels du logiciel, puisqu'évidemment, il permet également de surligner, de commenter les rapports, ce qui peut être très utile parfois. Comment ? Ah, je vais en profiter pour faire la communication également sur les deux rapports rapport transmis par le préfet, donc c'est le rapport 11. Conformément à la demande du préfet, vous avez eu communication de l'arrêté préfectoral instituant des servitudes d'utilité publique au droit de la décharge historique lieu-dit Laborde sur le territoire de la commune de Chouilly. Est-ce que vous avez des remarques particulières à exprimer ? C'est l'ancienne décharge, c'est l'ancienne déposante, non ? C'est ça ? Ce qu'on appelait la déposante, hein ? C'est-à-dire que c'est par rapport... c'est entre Nicolas Feuillatte et le camp des gens du voyage. Voilà, ce qu'on a appelé la Fertina, ancienne version, c'est-à-dire version SOGESAE, territoire de... ancienne déposante de la SOGESAE. Donc, sur ce rapport, le deuxième rapport, arrêté préfectoral relatif à la surveillance des eaux souterraines aux abords de la décharge historique, lieu-dit Laborde, sur le territoire de la commune de Chouilly. C'est donc une décision qui porte également sur le même site. Comment ? Pourquoi dans 6 mois ? Monsieur Lefebvre, 6 000 et quelques. Oui, le coût pour la Skyboy, c'est la totalité du coût, ce n'est pas une participation. Enfin, c'est une participation à 100%. Parce que le terme participation, vous pouvez laisser entendre qu'il y avait d'autres... C'est inquiétant, l'écran penche à gauche. On peut recentrer un peu l'image. Légèrement, parce que on va voir quand on va cliquer sur le... Qu'est-ce qui fait qu'il penche comme ça ? Non. Voilà. Oui.
Pour avant de débuter la séance, j'aimerais, puisqu'on parlait de concertation et puis d'être proactif et d'avoir des propositions, j'invite le conseil municipal à noter dans leur agenda, électronique ou papier, peu importe, la date du 19 décembre à 18h30, puisqu'on va faire un comité de pilotage élargi pour parler de la question de Citergy. Le label qui est en cours, afin d'avoir un programme d'action sur les 4 ans à venir en matière de transition énergétique, de qualité de l'air, etc. Donc, il y a un diagnostic qui a été fait de la ville et de l'agglomération. Les techniciens, évidemment, ont été invités à donner leurs analyses et leurs actions faites. Les élus, évidemment. Donc, vous serez conviés... à cette réunion, à 18h30, qui se fera, je ne sais pas si ce sera ici ou à la MVA, pour un comité de pilotage élargi. Et on aura à se revoir après également pour les propositions. Là, on est sur le diagnostic, le compléter, voir ce qui a été fait, etc. Voilà. Et donc, sur l'étude qualité de l'air qui a été présentée en commission la fois dernière, il s'agit de présenter ici l'étude qu'on a demandé à Atmo Grand Est de faire sur... il y a plusieurs phases, il y a deux phases et une troisième qui sera faite si c'est accepté au budget 2018, une troisième phase pour finaliser, qui est beaucoup moins importante, sur la qualité d'air à Épernay. Donc la qualité d'air, ça comprend l'analyse du dioxyde d'azote, mais aussi des particules fines inférieures à 10 microns ou à 2,5 microns. Donc ce sont les analyses qui sont faites au niveau européen, c'est les polluants qu'on retrouve facilement. Ça n'a pas forcément de lien avec les gaz à effet de serre, mais évidemment... on retrouve quand même les mêmes choses. Donc, pourquoi on a commandé cette étude ? Parce qu'il y avait aussi des réflexions là-dessus. Certains disaient qu'on était pollués, d'autres pas forcément alarmants. On avait aussi constaté, grâce à la station d'analyse de l'air qu'on a positionnée en février 2014, sur le rempart Perrier d'analyse trafic, donc qui analyse le trafic routier. Et on constatait bien que, évidemment, constater que positionner directement sur la route, on voyait des pics de pollution qui pouvaient parfois dépasser, sans être non plus dans une qualité dégradée. Mais en tout cas, il y avait évidemment des pics de pollution. Et voilà, Épernay, les pics de pollution étaient aussi... on n'est pas épargné, évidemment, ce n'est pas le nuage de Tchernobyl qui nous protège. Quand il y avait des épisodes de pollution au niveau européen, au niveau du nord de la France ou du quart nord-est, évidemment, on est aussi touché par ces épisodes de pollution. Donc le but, c'est d'avoir une analyse quand même assez précise et assez fine des d'Épernay, totalement, de voir dans tous les quartiers de la ville quel est l'état de la qualité de l'air, et ensuite proposer des scénarios, des scénarios d'adaptation, en tout cas de construction, et puis quand on fait une politique, voilà, si on interdit ceci, si on construit cela, quel impact ça peut avoir sur la qualité de l'air. Donc on avait cette mesure station de fixe qui existait. La campagne de mesure a été faite en 2016 et on arrive sur cette plateforme qui a été appelée par Atmos Sparner, hein, pour Sparnassien et R, ça fait Sparner évidemment. Et puis on a une carte assez fidèle et qui a été faite sur un an. Donc voilà, je vous l'ai dit, les polluants étudiés, dioxyde d'azote, particules fines, poussière fine. Alors c'est le PM, c'est le nom anglais, il faudra que j'en cherche un jour ce que ça veut vraiment dire, mais on le voit en fonction des sources de pollution. Évidemment, le transport routier est un élément important, mais aussi le chauffage en secteur résidentiel qui a un impact également sur la pollution de l'air. Et puis, évidemment, parfois aussi sur des particules très fines, on retrouve le secteur résidentiel, mais aussi, vous le voyez, le secteur agricole avec les épandages, avec les traitements qui amènent des particules fines, des poussières fines. Vous avez donc la date, c'est de février à décembre 2016, on a eu une campagne, donc 12 périodes, mais 15 sites de mesure. Donc vous le voyez, des capteurs de situation de fond, donc on est dans des zones un peu excentrées, qui analysent en continu et qui analysent aussi le chauffage et choses comme ça. Et enfin, cette station située juste à côté du trafic automobile. Donc, vous le voyez, on a eu aussi, vous voyez, station de fond. Il y en a eu à l'extérieur d'Épernay qui a été fait dans des zones rurales, hein, Vaucienne, Cuy, Mardeuil, un peu moins rural, mais à l'extérieur d'Épernay. On a fait du côté des Hauts-de-Justice. Donc là, il y a peu de circulation automobile. On est au-dessus de Vernon. Il y a le chemin des Forges, la rue de la Cité qui a été positionnée, et aussi à la Villa, et en plein centre-ville, la place Suplon. Pour ce qui est de la station trafic, on avait évidemment les grands axes de circulation. Donc, on retrouve la station Perrier. On a la grande avenue de Magenta, à Fred Thévenet. On a aussi la Voie de la Liberté. Donc, c'est un vieux nom cadastral, mais aujourd'hui, c'est une station, un capteur qui était situé au bas de l'avenue Jean Jaurès. L'avenue Foch, la rue de l'Hôpital, l'avenue de Champagne et la place Léon Bourgeois également, où des capteurs ont été positionnés. C'est Atmo qui a fait ces choix-là en fonction de la topographie, en fonction de la répartition sur le territoire. À vrai dire, on n'a pas eu... Voilà, c'était positionné derrière des panneaux, sur des candélabres, etc. Ensuite, le résultat des mesures. Donc, on a la réglementation européenne. C'est la Commission européenne qui prévoit cette réglementation. Qu'au-delà de 40 microgrammes pour le dioxyde d'azote, on dépasse... Les seuils d'alerte européens, et c'est un peu inférieur pour ce qui est des PM. Le PM10, c'est 40 microns aussi, mais pour le 2,5, on est à 25. Donc tout ça, ce sont les normes européennes. Donc il n'y en a qu'un sur ces sites qui montre une dégradation et un dépassement des seuils, c'est l'avenue Foch, qui dépasse très légèrement à 48 microns sur... Donc, au lieu de 40, c'est à 48. On est en deçà de ce qui peut se constater dans les grandes villes du Grand Est, où on peut constater parfois des pics à 65, à 70, etc. Donc, nous, on est un peu en dessous, ça dépasse quand même. Et l'avenue Foch correspond à ce qui est une avenue canyon. Voilà, on a une grande avenue avec des immeubles qui bordent cette avenue. Donc, forcément, la circulation de l'air se fait moins bien. Et on a une concentration qui peut évidemment... Et on a peu d'espaces verts finalement qui bordent, on n'a pas d'arbres qui peuvent aérer ou absorber ces choses-là. Donc on a forcément une avenue Foch qui est très circulante, qui forcément dépasse ces seuils européens. Ensuite, là vous avez une carte donc, qui est d'Épernay, hein, on le voit. Donc plus on est vert, mieux c'est. Plus on commence à colorer dans les couleurs chaudes, moins c'est significatif. C'est moins bon pour la qualité de l'air. Donc, vous voyez, on a les grands axes routiers.
Oui, on retrouve sans surprise les grands axes de circulation.
Voilà, c'est pas étonnant. Donc, vous voyez le petit, la barre 40 à droite là, sur le diagramme, c'est le seuil d'alerte européen. Donc, vous voyez, le rouge est un peu en dessous aussi. On retrouve du rouge, mais voilà, on est en dessous de ces 40, sauf pour l'avenue Foch, où on l'a vu tout à l'heure, on est à 48. Mais sinon, tout le reste, tous les autres endroits, tous les autres capteurs sont en dessous des seuils d'alerte européens. Ensuite, on a les particules fines. Voilà, on ne voit pas très bien en dessous, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les moyennes, voilà, les moyennes réglementaires. Pour les PM10, donc 10 microgrammes par mètre cube, c'est 40, c'est 40. Et pour les autres, c'est 25. Si mes mémoires est bonne, c'est ça, 25, on ne voit pas bien, mais c'est ça, les seuils réglementaires. Donc, si on regarde la carte de ces particules, on voit qu'on est bien en dessous pour les PM10, puisqu'on est à 40 en seuil d'alerte européen. Et vous le voyez, sur la carte, on est soit en vert, soit en jaune. Donc, on est aux alentours de entre 16 et 30, on va dire à peu près, même pas, sur la ville. Donc, on est largement en dessous des seuils d'alerte de la Commission européenne. Pour les PM2.5, c'est la même chose, où on est à 25 en alerte. Donc, vous voyez, aucun point rouge, hormis s'il y a un petit point rouge, mais on est en dessous quand même pour la rue de Reims, où on a un étranglement ici derrière la MJC, etc. Donc là, on a voilà, un petit coude qui fait que ça s'aère mal avec des grands immeubles, mais on est quand même en dessous des normes européennes. Voilà, donc là, c'est le résultat de la modélisation. Donc, on a ici, à gauche, vous voyez le nombre d'habitants qui peuvent être exposés, et à droite, le pourcentage de la population. Donc, vous le voyez, on peut regarder chaque détail, mais aussi en global. On a, alors, ils sont obligés de mettre moins d'un chiffre, ils ne peuvent pas mettre à zéro, parce qu'évidemment, on est toujours exposé, finalement, puisqu'il y a de l'activité humaine, il y a de la circulation, il y a du chauffage, donc il y a forcément de la pollution. Donc, on est en dessous de 0,1% de personnes touchées, on va dire. Donc, en dessous de 0,1, ça peut être 0, ça peut être 0,05, on n'a pas de chiffre précis là-dessus. Mais en tout cas, voilà, on constate par cette étude qui a été faite par Atmo Grand Est, dont la probité n'est plus à montrer, que la qualité de l'air à Épernay est bonne. Elle n'est pas dans une pureté du Mont Blanc, évidemment, puisqu'on est, je vous le dis, on a une activité humaine, il y a une activité de circulation. Donc, évidemment, il y a de la pollution, comme toute activité humaine, mais on est quand même en deçà des alertes européennes, on est quand même dans une bonne qualité de l'air. Et si on était en alerte, il y aurait... le préfet, en tout cas l'État, aurait assorti la ville d'Épernay d'un plan de prévention de l'atmosphère, ce qui n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans ce cas-là. Je crois qu'on a présenté toutes les diapositives.
Oui, juste un mot.
Juste un mot sur le coût de l'étude important, le coût hors taxe de cette étude, qui y est de 16 500 euros, dont 50% nous est financé normalement par les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Donc l'État devra financer cette étude à 50%. Lorsque nous lui avons fourni nos justificatifs.
Oui, je rappelle simplement le commentaire que fait la directrice déléguée à Atmo Grand Est, Mme Drab-Somsou, qui dit « La qualité de l'air est bonne sur l'ensemble de la commune. Seuls quelques axes de circulation présentent des concentrations plus élevées. Quant à la population impactée par le dépassement d'un seuil réglementaire en dioxyde d'azote, poussière fine et poussière très fine, elle est inférieure à 0,1%. L'exposition de la population spanatienne à ces trois polluants est donc très faible, voire nulle. Puisqu'effectivement, les seuils de tolérance font que quand on dit moins de 0,1%, ça peut tout à fait être zéro. Simplement, les degrés de précision sont impossibles à définir de manière extrêmement précise. Donc ça permet d'abord de prendre conscience de cette situation, ce qui ne nous empêche pas, évidemment, d'être et de rester vigilants. Nous l'avons été en installant la station située en Parc-Perrier. Évidemment, on pourra de temps à autre réitérer ce genre d'études pour voir, ce qui me semble important, le sens de l'évolution, puisque ça, c'est un marqueur qui peut être intéressant, et puis de veiller à ce qu'au moment des pics de pollution, qui sont en règle générale des pics de pollution qui ne touchent pas qu'Épernay, mais qui touchent la Marne, ça a été le cas il y a quelques jours, mais parfois une partie du bassin parisien débordant sur notre région, évidemment, sont des phénomènes qui sont dans ce cas-là généraux et auxquels notre ville n'échappe pas. Y a-t-il des questions sur cette étude ? Monsieur Angers et Monsieur Lefebvre.
Oui, merci Monsieur le maire. Chers collègues, moi je ne partage pas du tout l'optimisme qui reflèterait cette présentation. Nous pensons que cette présentation occulte un certain nombre d'éléments qui figuraient dans les 47 pages du rapport. D'ailleurs, avec les collègues du groupe, nous avons décidé d'en faire notre prochaine chronique du bulletin municipal, parce que nous pensons qu'il faut montrer le rapport dans toute son étendue, et notamment l'étendue de sa conclusion, mais j'y reviendrai peut-être après dans mon propos. Moi, je me demande toujours pourquoi des élus de droite et du centre, en fait, en matière d'environnement, font toujours des politiques de saupoudrage, en ayant des discours intéressants, une très bonne communication, mais pourquoi on ne va pas au fond des choses? J'essaie de réfléchir au pourquoi de la chose. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, Jonathan Rodriguez, en l'occurrence, et Franck Leroy aussi, en l'occurrence, qui ont-ils soutenu lors des dernières élections sénatoriales? Ils ont soutenu une liste tirée à la fois par René-Paul Savary et puis notamment par Françoise Férat. Hein, bien que Monsieur Leroy était un peu macroniste fut un temps, il est revenu à ses premières amours. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous emmène sur cette partie du débat?
Je suis curieux de savoir.
Parce que René-Paul Savary... René-Paul Savary, tout le monde se souvient de René-Paul Savary, dans ce fameux reportage de Madame Lucet, Cache Investigation, en relation de travail avec les grands lobbies des produits phytosanitaires, lobbies certainement intéressés par la présence du sénateur de la Marne, puisque la Marne est le département qui est en noir sur la cartographie française de l'usage des produits phytosanitaires. Et l'usage des produits phytosanitaires est l'un des éléments qui conduit notamment à une élévation significative, notamment là pour les particules très fines. Donc ouais, René-Paul Savary, alors certainement peut-être était-il en relation avec les gens de ces lobbies industriels pour faire en sorte que notre département et puis les acteurs du département soient moins impliqués dans ce domaine et faire comprendre ça aux acteurs industriels. Peut-être. Allez, on va laisser cette porte de sortie. Pourquoi Madame Férat? Parce qu'il y a un article fort intéressant la semaine dernière dans l'hebdomadaire L'Hebdo du vendredi qui dit « Ah non, Madame Férat, moi je suis contre le retrait de toute... extraction fossile d'énergie pétrolière dans la Marne, de pétrole dans la Marne, parce que je pense qu'il faut continuer à faire vivre le lobby pétrolier. Donc je me dis, moi, Jonathan Rodriguez, très bien, Jonathan Rodriguez qui veut faire preuve de volontarisme à la ville d'Épernay, malgré tout, il est quand même salarié de sénateurs qui tiennent un discours un petit peu contraire à ce qu'il souhaite voir appliquer à la ville d'Épernay. Bon, à la limite, pourquoi pas, hein, on a le droit d'avoir des avis fluctuants. Mais bon, moi, dans ce domaine, allez, moi, je crois comprendre pourquoi en politique, on n'est pas en géométrie et pourquoi en politique, le centre va toujours vers la droite. C'est parce qu'il y a toujours quand même des lobbies financiers et des lobbies d'intérêt particuliers à défendre. Et c'est pour ça que dans ce domaine-là, les politiques de droite et du centre font que ce qui relève de l'environnement n'est jamais pris suffisamment pour compte. C'est un avis, je pense, relativement réaliste par rapport aux situations. Revenons au rapport. Pourquoi ce rapport, il est tronqué? Parce qu'il y a une partie de l'information qui concerne également, là on a parlé de données réglementaires, mais il y a une partie des données qui concerne les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé. Alors, c'est peut-être des rigolos, l'Organisation mondiale de la santé, mais en ce qui concerne l'Organisation mondiale de la santé, à un moment dans le rapport, il est clairement dit, dans sa conclusion, et nous avons repris sa conclusion in extenso, et j'invite les journalistes à aller consulter le rapport de 47 pages et de reprendre cette conclusion. Dans cette conclusion, il est dit que dans tous les cas de figure, tous les points de contrôle pour ce qui relève des particules très fines, on dépasse les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé. Donc moi, ce rapport, ne serait-ce que par sa conclusion, que vous avez volontairement tronqué, pour moi, il est relativement inquiétant. Ensuite, ce rapport est inquiétant pour une autre raison. Alors vous me dites 0,1, c'est près de 0. Ils auraient peut-être mieux fait de mettre 0, parce que 0,1, si on applique le pourcentage de 0,1%
moins de 0,1
à 23 000 pharmaciens, ça veut dire qu'aujourd'hui, à Épernay, et je le dis solennellement, il y a 23 personnes qui sont en danger.
Mais non, racontez n'importe quoi, monsieur Angers. C'est marqué, c'est le signe inférieur à 0,1.
Mais écoutez, monsieur, je ne vous ai pas coupé.
C'est marqué, marqué 0,1 ou inférieur
pendant l'expression de votre rapport.
Non, mais attendez.
Écoutez, le rapport dit qu'aujourd'hui, il y a moins de 0,1%,
moins de 0,1.
Moins de 0,1%, ça veut dire... mais il y a moins de 0,1%. Donc, il y a un nombre de personnes qui, aujourd'hui, sont exposées à des situations qui peuvent être mauvaises pour leur santé. Donc, moi, je dis qu'à partir du moment où il n'y aurait qu'une seule personne dans la ville d'Épernay qui serait en situation délicate par rapport à ça, c'est de la vocation d'une municipalité de traiter les problèmes de santé de ses habitants. Monsieur... Il semble que dans d'autres domaines, pour ce qui relève de la circulation publique ou autre, vous avez mis des stops à certains endroits parce que vous considérez que c'était accidentogène. Là, nous avons une situation accidentogène au niveau de la situation de l'air. Mais prenez
relisez les conclusions,
nous les avons mises littéralement dans notre article. C'est pas nous qui avons écrit notre prochain article, nous avons repris la conclusion du rapport pour pas que ça soit contestable. Donc je rappellerai quand même 0,1%, c'est pas grand chose 0,1%.
Moins de 0,1%.
Eh bien, je vais vous citer un chiffre moins de 0,1%. 45 000. Ça veut dire que c'est quoi 45 000 pour vous? 45 000, c'est le nombre de décès par an en France liés à des problèmes de pollution de l'air. C'est moins de 0,1% de la population sur 65 millions d'habitants. On est bien d'accord?
Citez-moi une ville de France qui n'a pas moins de 0,1%.
On parle d'Épernay, monsieur le maire.
Mais attendez, c'est un problème de société. À partir du moment où on vit dans un pays...
Faites bouger la société. Je vous ai expliqué dans mon préambule pourquoi vous ne souhaitez pas...
Je suis désolé de vous le dire, mais vous délirez, monsieur.
Parce que vous avez des lobbies à défendre. Vous avez dans vos familles politiques des lobbies.
Monsieur Angers, j'accepte pas vos...
Et aujourd'hui, vous
ne
voulez pas avancer.
Monsieur Angers, je n'accepte pas vos propos qui sont insultants et infamants. Je n'ai aucun lobby derrière moi. Votre raisonnement qui consiste
à... Mais votre famille politique défend des lobbies, monsieur le maire.
Votre propos qui consiste à dire que quand on est de droite ou le marqueur de droite ou du centre...
C'est pas moi qui l'écris, monsieur le maire.
C'est parce qu'on est soumis à des lobbies, c'est une connerie pure. Je vous le dis, pardonnez-moi du terme, c'est une connerie pure. C'est sorti de votre esprit.
C'est pas sorti de mon esprit.
Mais bien entendu, vous faites des raccourcis, c'est des méthodes staliniennes, ça, que vous utilisez.
C'est pas des méthodes staliniennes.
Bien entendu.
C'est pas des méthodes staliniennes.
Allez dire aujourd'hui qu'il y a
moins de 23 personnes, 22, c'est moins de 23, et il n'y aurait qu'un pharmacien qui serait en danger par rapport à ces problèmes-là. Je pense que c'est pas raisonnable de ne rien faire.
C'est irresponsable. Vos propos sont irresponsables.
Non, ce n'est pas irresponsable.
Vos propos sont irresponsables.
Pas plus que les vôtres, qui n'avançaient pas du tout dans ce domaine. Pas plus que vos actions, monsieur le maire. Hein, vous qui êtes vertueux. Moi, j'ai quand même le souvenir
d'un
maire vertueux qui prévoit des courses automobiles en plein centre-ville.
Parlons-en. Je suis prêt à en parler autant que vous voulez. Monsieur Angers, c'est vous qui pensez que c'est du saupoudrage. On a engagé, sous ma direction, dans cette municipalité, depuis plusieurs mandats, des actions pour être exemplaires en matière d'environnement. On a obtenu le label Agenda 21. On a été la première collectivité de Champagne-Ardenne. Vous connaissez un peu la Champagne-Ardenne. On a été la première collectivité à l'obtenir. Et je n'ai pas connaissance que c'était forcément un gouvernement de droite qui nous l'avait accordé. On a obtenu le label territoire énergie positive pour la croissance verte, le label ville respirable. Encore aujourd'hui, la semaine dernière, cette semaine, énergie citoyenne. Ces labels-là sont décernés par des autorités nationales. Elles ne sont pas noyautées par quiconque. Vous avez d'un côté votre discours alarmiste et démagogique, et de notre côté, si ce n'est que déclarer qu'il y a 24 personnes qui sont sur le point de mourir, c'est pas alarmiste. Enfin, si c'est ça, vous appelez des propos responsables.
Écoutez, reprenez les statistiques, la conclusion. Au lieu de faire des présentations qui soient tronquées,
elles ne sont pas tronquées.
Qu'on montre. Est-ce que vous avez moyen de faire en sorte que l'opérateur nous montre la conclusion,
elles ne sont pas
nous fasse lire la conclusion complète?
Vos propos sont irresponsables. Moins de 0,1, ça peut être 0. Donc vos propos peuvent être faux. Moins de 0,1, ça peut être 0. On est d'accord que 0, c'est moins que 0,1. Bon. Donc, le seuil ATMO, qui est une association dont personne ne peut remettre en cause son indépendance, affirme qu'il y a moins de 0,1%. C'est la marge d'erreur, si vous voulez, parce qu'on ne peut pas avoir zéro. Et de toute façon, il n'y a pas une commune en France qui a zéro. Donc quand on ne sait pas établir avec précision le montant du seuil, on met moins de 0,1%, ce qui veut dire que c'est faible. Et je vous renvoie encore une fois
dans la conclusion, il est fait état du fait qu'en matière de particules très fines, nous soyons en toutes circonstances au-delà des normes guides prévues par l'Organisation mondiale de la santé, qui, je suppose, sont comme moi de gentils rigolos,
les valeurs guides Jean-Paul, elles sont combien les valeurs guides de l'OMS pour les particules fines? Elles sont de combien, si tu as lu la conclusion?
Moi, je m'en suis tenu au rapport.
Oui, mais c'est dans le rapport, on est d'accord.
Mais montrez la dernière page du rapport.
Mais les valeurs guides, elles sont très basses.
Au lieu de tronquer votre présentation.
Mais on tronque pas.
J'invite la presse à prendre les éléments de la conclusion du rapport. Tribune du prochain mois où les choses seront
objectives. Tribune parfaitement objective. Bien sûr. Mais c'est vrai que vous aviez annoncé, j'ai des lectures aussi de la presse locale, vous aviez annoncé un changement de comportement après un bilan. C'est sûr que ça a changé de comportement. On est dans la démagogie et la désinformation.
C'est pas une démagogie.
Bien sûr que
c'est
si.
C'est pas une démagogie.
Bien sûr que
c'est
si.
C'est pas une démagogie.
Bien sûr.
Quand on soutient le pétrole comme votre patronne.
Ah ben. Qui dit avec ça?
Non, mais attendez,
vous avez lu l'article ou pas?
D'abord, je l'ai lu l'article.
Qu'est-ce qu'elle dit? Pas en cause, Jonathan, je l'accepte pas. Il est le salarié d'un parlementaire qui est parfaitement respectable, qui a le droit d'avoir les idées qu'elle a. Et je vois pas en quoi Jonathan Rodriguez devrait être mis en cause pour les positions prises par sa patronne. Si vous n'êtes pas d'accord avec les positions du comité Champagne, ça vous est déjà arrivé. Je vous ai jamais mis en cause par rapport à ça. Donc je n'admets pas qu'on mette en cause personnellement quelqu'un qui est le salarié d'un parlementaire parfaitement respectable.
Non, mais monsieur Rodriguez vit de la politique.
Attendez, il démontre tous les jours qu'il fait le boulot en matière d'environnement. Tous les jours, il le démontre.
Vos exemples caricaturaux, vous les gardez pour vous. On n'est pas dans le même contexte. Moi, je fais de la politique parce que je crois à certaines valeurs. Je ne fais pas de la politique pour gagner ma vie. Vous êtes dans un contexte où vous gagnez votre vie de la politique.
Mais vous ne demanderiez pas mieux.
C'est très louable.
Vous ne demanderiez pas mieux.
Attendez, les choses à leur place.
Rappelons-nous quand même qu'il y a quelques années, vous étiez aussi élu bénéficiant d'une indemnité de la région. Vous n'aviez pas le même
discours. Sur le niveau
vous n'aviez pas le même discours à ce moment-là. Voilà. Donc soyez cohérent.
Ouais, je faisais 70 heures par semaine. Moi, je faisais mes 35 euros au boulot.
Qu'est-ce que vous croyez qu'on fait toutes les semaines?
C'est vrai.
Non, mais il faut être sérieux.
Soyez sérieux. De toute façon, vous ne voulez pas d'opposition. Le fait, vous l'avez démontré tout à l'heure, vous ne voulez pas de débat. Et à partir du moment où vous êtes renvoyé dans votre corner, on arrive à démontrer, à contester un certain nombre
vous
de
démontrez
faits
rien du tout.
Qui sont là, qui sont avérés, avec des propos. Ce n'est pas moi qui les invente, les propos. Mais à partir du moment où on arrive à montrer les contestations de votre, politique, tout de suite,
vous nous...
C'est nous qui sommes des mauvais coucheurs.
Lisez-la, la déclaration.
Jean-François Ferrat.
Non, mais vous avez j'ai lu l'article.
Vous l'avez oublié alors. Vous l'avez
il faut le maintien, bon. Il faut maintien du lobby pétrolier.
Ah oui, c'est pas marqué comme ça. Je suis pas sûr.
On en est où aujourd'hui?
Le journaliste, il pourra lire ces trucs, c'est lui qui
est dans la caricature. Monsieur Lefebvre,
on n'est pas prêt d'inverser la tendance du tout.
Vous savez ce que c'est que le projet de loi pétrole? C'est de dire simplement, on ne le fait plus dans la Marne, mais on peut continuer à en importer d'étrangers. C'est-à-dire que, plus de produire en France, mais ce n'est pas la fin des énergies fossiles. Si c'était ça, c'est bien ce qu'a dit François Ferrat dans son discours et dans son intervention, c'est de dire, si c'est la fin des énergies fossiles, d'accord. Sauf que là, c'est, on arrête d'en faire en France, on arrête à Montmirail d'en extraire, mais on continuera à en acheter l'Arabie Saoudite et au Qatar. Voilà, parce que c'est ça l'intervention. Et ça me paraît quand même un peu plus différent de dire, je veux le pétrole et je veux qu'on continue à polluer. C'est quand même pas la même chose. C'est tout à fait différent. Et je trouve que ça montre une certaine... Alors, c'est une pondération, évidemment, ça vous échappe un petit peu, peut-être, c'est centriste, peut-être. Mais en tout cas, c'est ce qu'a dit François Ferrat, et c'est marqué noir sur blanc dans l'article que vous lisez.
Oui. Non, alors, on ne prend pas le taureau par les cornes.
La parole est à Marc
Lefebvre. Moi, le problème, c'est que, aujourd'hui, moi, j'ai cité un chiffre tout à l'heure, 23 personnes. Ça, c'est un pourcentage statistique. Moi, ce que je vois au-delà de ça, c'est l'avenir de nos gosses, la vie de nos gosses. Quel univers, quel... vocation on donne à notre civilisation. C'est ça la vraie question.
Mais monsieur,
là, c'est une vraie question.
Mais monsieur Angers, vous savez bien que l'état de l'air dans nos villes de France aujourd'hui, parce que évidemment, on est dans la situation d'une très grande majorité des villes de France, on ne change pas l'air du jour au lendemain. Il faut pour ça que des mesures de fond soient entreprises, que par exemple, on aille vers des énergies décarbonées. Parmi ces énergies décarbonées, je signale qu'il y a quand même le nucléaire, qui pose également un autre problème, à savoir que ceux qui veulent de l'énergie décarbonée ne veulent pas du nucléaire. Auquel cas, je vous renvoie au propos de Nicolas Hulot, que j'ai trouvé parfaitement responsable et courageux la semaine dernière, quand il a indiqué qu'effectivement, si aujourd'hui on devait accélérer le retrait du nucléaire, on serait obligé de réactiver ou de construire de nouvelles centrales à charbon, ce qui est une réalité. Bon, encore une fois, on ne changera pas les choses du jour au lendemain. J'affirme que notre municipalité ici fait en sorte d'enclencher une dynamique positive en la matière. Alors, qu'on n'ait pas immédiatement les résultats, c'est tout à fait logique. N'importe qui pourrait revendiquer le moindre résultat. J'étais à Strasbourg il y a quelques heures de cela. Je peux vous assurer que l'aire de Strasbourg, avec une majorité municipale qui n'est pas de ma sensibilité, qui fait un travail remarquable en matière d'écologie, il est bien plus pollué qu'à Épernay, tout simplement parce qu'il y a une concentration d'habitations, d'industries en proximité, et il faudra des décennies pour que ça change. Et c'est pareil à Paris, et c'est pareil à Lille, et c'est pareil partout. Donc dire aujourd'hui, ici, à Épernay, montrer du doigt à Épernay, comme si Épernay était le mauvais élève de la classe.
Je suis pas élu ailleurs.
Non, mais attendez, mais c'est pas interdit d'être responsable. Dire que je vous dis qu'à Épernay, il y a 23 personnes dont la vie est en danger en ce moment, c'est totalement irresponsable.
Mais c'est statistique.
Ça fera pas avancer le sujet. D'abord, c'est faux, puisque la statistique, c'est moins de 0,1.
Montrez la conclusion. Faites-nous lire la conclusion.
Bon, monsieur Lefebvre.
Oui, donc, je ne vais pas être long. Donc, c'est vrai que le problème de l'environnement est un problème très grave. Il ne s'agit pas de s'écharper. Il s'agit de faire remonter, faire pression à tout niveau pour que cela change. Mais je dis à Jean-Paul, Monsieur Savary, il l'a dit à Cache Investigation, il passait par là, il a vu la lumière, il est monté, on ne l'avait pas invité.
Quel rapport avec notre débat d'aujourd'hui, franchement? Essayons d'élever un peu le niveau, quoi.
Bon, donc je voulais vous questionner sur la dernière pollution. Je crois qu'elle a eu lieu vendredi. Savoir quelles sont vos relations avec Atmo. Est-ce que Atmo vous a prévenu? Est-ce que vous avez fait une alerte au niveau des écoles? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont les données? Quels sont les chiffres exactement? Puisqu'on n'a eu qu'une dimension globale. Parce que je vous avais proposé, il y a peut-être un an environ, donc de mettre un système d'alerte en marche et que vous préveniez par exemple par coup de fil les écoles maternelles, les écoles de garder les enfants, de ne pas les mettre en récréation. Ça c'est un point concret. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous êtes alerté? Est-ce que vous avez les jours de pollution ou de prévision de pollution un contact direct avec Atmo?
Alors pour répondre un petit peu à vos questions, on a des contacts réguliers avec Atmo puisque notez bien qu'on doit être une des seules villes, ou en tout cas, enfin, on peut être plusieurs villes, mais en tout cas, on fait. je ne vais pas comparer aux autres. On alerte sur le site internet de la ville, sur les réseaux sociaux, divers, Facebook, Twitter, etc., des alertes pollution. Parfois, c'est en prévision et parfois, c'est quand on est en dépassement. Des fois, on alerte en disant « Attention, demain, il risque d'y avoir » ou on constate ce jour J un dépassement. Donc ça, on le fait. Ensuite, la préfecture envoie des messages et l'académie envoie à chaque école, à chaque directeur, les alertes en amont. Et ils prennent des précautions de dire « Aujourd'hui, ce n'est pas de sport ou pas d'activité physique derrière pour accélérer la respiration et capter plus de particules fines. » Donc c'est fait déjà. Ensuite, pour ce qui est de l'épisode de pollution du 17 novembre qui a eu lieu, je rappelle, sur une partie de la Marne et une partie des Ardennes. C'est dû, évidemment, avec le transport, avec le chauffage en période hivernale, mais surtout, les pics ont été dépassés fortement à cause d'un incendie qui a eu lieu à Auménancourt. 2000 tonnes de paille qui ont été brûlées. Ce qui fait qu'on le constate dans le graphique d'Atmo. Au moment de l'incendie, il y a un pic énorme et ça redescend progressivement après. Alors, ça ne stoppe pas aussitôt, mais c'est progressif. Donc, au moment de l'incendie, il y a eu un pic de pollution. Ce qui fait qu'on était le 16 novembre dans la Marne à 35, donc en dessous des 40. Le 17, jour de l'incendie, et peut-être une concentration de polluants à 63. Et le lendemain, on est descendu à 34. Donc, voilà pour l'épisode de pollution du 17 novembre. Après, il pourrait y avoir des pics de pollution dus à l'automobile, dus au secteur résidentiel. C'est possible. Mais voilà pour cette question particulière.
J'ai là le communiqué d'Atmo qui dit « Le dépassement du seuil d'information et de recommandation a concerné près de 170 000 personnes, en grande majorité situées dans la Marne, sur le territoire du Grand Reims. » Voilà. Et puis 2 727 personnes concernées dans les Ardennes. Donc s'il y avait eu ici matière à informer les gens et à alerter de choses, on l'aurait fait. Mais on est en contact constant avec Atmo. Atmo a une station à Épernay. Atmo communique très régulièrement de l'information en la matière. Je ne peux pas laisser dire qu'on aurait caché des choses aux Sparnassiens, comme vous le laissez entendre.
Je demande de montrer la conclusion.
On l'a pas,
mais
ça n'a
pas grand-chose.
On
parle de l'épisode du 17 novembre. L'étude est déterminée. Comme pour chaque situation, et Jonathan a raison de le dire, on communique en temps réel, c'est-à-dire dès que l'information est publiée, nous est communiquée par Atmo, puisque c'est Atmo qui nous transmet les informations. Elles sont systématiquement mises sur le site internet de la ville et sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que effectivement, on ne peut pas imprimer ou faire quoi que ce soit. Le seul moyen de communication qu'on ait en direct, c'est les réseaux sociaux. Donc cette information est faite. Maintenant, où elle doit être relativisée ? C'est que, certes, par rapport aux chiffres de l'OMS, qui sont des taux espérés, des taux souhaités, des taux de tendance, on est, comme la plupart des territoires, parfois en dessous, parfois au-dessus de ces territoires, et que si vous pensez bien que si à chaque fois qu'on le dépasse, on devait faire une alerte, on ferait des alertes, non pas tous les jours, mais à tort et à travers, ce qui fait qu'en fin de compte, on perturberait les esprits plutôt qu'autre chose. L'important, c'est le sens des politiques publiques, et le sens des politiques publiques qui sont adoptées, c'est le développement du transport public. On s'inscrit dans cette dynamique-là puisque, comme vous le savez, on va étendre notre réseau de transport public en la matière. C'est de mener des politiques visant à la pratique des modes de circulation doux, on le fait. C'est d'être exemplaire en matière d'usage de phytosanitaires, on le fait. Et d'ailleurs, ça nous vaut des critiques parce que maintenant, effectivement, il y a de la végétation qui pousse ça et là à des endroits qui n'existaient pas autrefois. Mais c'est plutôt une bonne chose. C'est en tout cas ce que je dis aux habitants. Donc on est dans la bonne tendance. Maintenant, si vous pensez qu'au bout de 3 ans, 6 ans, 9 ans, on a des résultats, c'est faux. Parce qu'il faudra des décennies. Et en tout cas, tant qu'on aura autant de production carbonée autour de nous, tant qu'on chauffera toujours autant de logements avec des chaudières qui, pour la plupart d'entre elles, ou pour nombre d'entre elles, sont mal réglées et qui produisent excessivement de rejets, tant qu'on aura toujours des véhicules diesel, voire des véhicules à énergie thermique, on aura ces problèmes-là. Mais on en est tous conscients. Et je pense qu'on a eu suffisamment de débats dans cette instance pour pouvoir évoquer ces questions sereinement, sans foutre la panique ou sans chercher à mettre la panique partout en indiquant qu'il y a 23 personnes qui sont sur le point de mourir à Épernay. Il faut être sérieux.
Franck, donc on a fait cette étude-là. On a aussi...
Oui.
Pardon.
Allez-y.
Merci. Excuse-moi.
Je n'ai pas vu.
Oui. Je ne pense pas que Jean-Paul ait dit qu'il y avait 23 personnes qui allaient...
Qui sont en danger de mort.
Décéder. Oui. Potentiellement, oui. Donc, et ça, c'est la conclusion. C'est la conclusion du rapport.
Non, c'est pas
il y a 47 pages. S'il vous plaît, Il y a 47 pages. Il faut les lire. Il faut se les farcir. On a évoqué la question l'autre fois à la commission. Et j'ai même fait état que c'était pas forcément d'une lecture très, très joyeuse, etc. Bon, mais il n'en demeure pas moins que, y compris ce qui nous est présenté, confirme nos alertes, confirme nos demandes d'avoir une politique. Oui, je signale et je rappelle ici que lors de conseil municipal privé du mois de juillet 2015, j'ai été le premier à intervenir lorsqu'on nous a annoncé les chiffres de la circulation poids lourd à Épernay, les chiffres quotidiens qui nous étaient présentés dans un rapport d'ailleurs, puisqu'il y avait une prospective, c'était le but de l'objet de cette réunion. Et bon, je me suis fait tacler par M. le maire, me disant il n'y aura pas de grand soir de la circulation, etc. Aujourd'hui, il y a confirmation de ce que nous disions, qu'il faut prendre des mesures et certainement aller plus vite, même si nous n'avons pas, nous, la solution pour tout le monde. C'est évident. Mais on parle d'Épernay, et c'est d'Épernay dont il faut... C'est pour Épernay qu'il faut examiner éventuellement des dispositions qui permettent de ralentir, de mieux, de réguler. Parce que là, on parle de l'avenue Foch. Mais l'essentiel des camions qui passent avenue Foch, ils passent rue Pasteur. Une grande partie descend l'avenue de Jean Jaurès et l'autre partie, elle arrive de la rue de Brabant. Je veux dire, donc, là, il y a un capteur pour mesurer. Mais si on en mettait à ces endroits-là, sans doute, vraisemblablement, on aurait les mêmes résultats. Parce que ce sont aussi des... Il n'y a pas de traversée d'air, etc. Hop, c'est un canyon, comme il est dit dans ce rapport. Donc voilà, il faut le prendre au sérieux. Il y a des choses à faire peut-être plus vite. Et je partage ce qui est dit par Jean-Paul. Oui, c'est quand même du saupoudrage, etc. Il y a beaucoup de communication, mais il faut des résultats plus rapides. Parce qu'on n'attendra pas 2040 la fin des voitures, enfin en tout cas de la propulsion diesel, enfin les moteurs thermiques, etc., pour agir. On ne peut pas attendre. Certainement faire plus.
Mais on n'attend pas,
encore une fois, même si... J'en ai terminé. Même si nous n'avons pas, bien évidemment, on ne va pas résoudre le problème du Grand Est, on ne va pas résoudre le problème de la France, de l'Europe, encore moins du monde. C'est évident.
On n'attend pas, monsieur Richard. On a engagé un certain nombre de politiques. Je vais prendre un exemple. Le passage des bus à l'électrique. Je le souhaite, le passage des bus à l'électrique. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde dans les possibilités qu'on a en termes d'appel d'offres, il y a encore très peu d'autobus. Il y a un bus qui est sur les catalogues de l'UGAP, qui nous servent souvent à acheter nos véhicules. Un bus. Il est espagnol et il nous est décommandé par tout le monde parce que ce bus n'a pas la fiabilité, la technique voulue. On sait qu'à la fin de l'année prochaine, il y aura sans doute 4 à 5 bus qui seront enfin en concurrence. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que, en plus, on ne peut pas acheter des bus autrement qu'en renouvelant le rythme de notre renouvellement de flotte. Parce que acheter des bus alors que ceux qu'on a qui sont normes Euro 6, donc la norme la plus exigeante en la matière, correspondent parfaitement aux objectifs qui sont menés à l'échelon européen. Simplement, il faut attendre qu'un bus arrive en fin de vie pour en prendre un nouveau. Sinon, évidemment, on déséquilibre les comptes de la société de bus et on fait payer ça aux contribuables. Mais l'achat de bus électriques aujourd'hui, c'est une contrainte pour nous pour plusieurs raisons. Un, on a Épernay un relief qui fait que nos bus ils montent des côtes assez élevées et que les bus électriques ne sont pas forcément faits pour ça. Deuxièmement, les choix qui sont offerts aujourd'hui à notre collectivité sont assez restreints, donc les prix sont extrêmement élevés. Sachez qu'un bus électrique, c'est 300 000 euros de plus qu'un bus non électrique à ce jour, avec une incertitude liée au fait qu'on n'a pas encore suffisamment de recul pour passer au bus électrique. Mais dès qu'on pourra le faire de manière raisonnable, on le fera. On le fait aujourd'hui pour la plupart des véhicules qui tournent en ville deviennent maintenant électriques. Et la norme, c'est du véhicule électrique avec exceptionnellement un véhicule thermique si on ne peut pas faire autrement. Par exemple, pour les véhicules techniques, les camions, on est encore sur, évidemment, du thermique, alors que sur tous les petits utilitaires, on est passé à l'électrique. Donc ça, c'est engager un certain nombre de politiques, mais je ne peux pas laisser dire qu'on ne fait rien ou qu'on saupoudre. On fait à la taille de nos moyens du moment. Simplement, des politiques sont engagées et au fur et à mesure des renouvellements, la flotte électrique, par exemple, pour ne prendre que l'exemple de l'électrique, va croître d'année en année. Vous verrez, dans 4 ou 5 ans, on pourra peut-être compter sur les doigts d'une main les véhicules thermiques qui nous restera. Encore une fois, on ne peut pas tout faire sur une année, d'abord parce que ce serait un non-sens économique et qu'on a aussi des contraintes budgétaires qu'il faut prendre en considération. Et le développement durable, c'est aussi un développement qui soit supportable économiquement, sinon ça ne tient plus la route. Donc dans un certain nombre de domaines, on est comme ça bien avancé, beaucoup plus avancé que certaines villes, moins avancé que d'autres villes qui ont pris aussi de la longueur d'avance ou qui ont pu bénéficier d'opportunités intéressantes en la matière. Mais je ne peux pas laisser dire qu'on est des bons à rien et qu'on ne fait rien et qu'on saupoudre, etc. C'est faux. Encore une fois, ça voudrait dire que tous les labels ou toutes les récompenses qu'on a pu avoir ces derniers temps, j'ai payé personne pour les avoir. J'ai payé personne, M. Angers. Elles ont été validées. Non, ce n'est pas de la com.
Ce sont
des ministères, ce sont des organismes officiels qui les ont délivrées. Et croyez-moi, il y en a beaucoup qui sont restés à la porte et qui ne les ont pas eues. Si on les a eues, c'est au vu de documents qui ont été produits. Ça a été des dizaines ou des centaines d'heures de travail du service qui a fourni des justificatifs, qui a pu démontrer que notre politique allait dans la bonne direction. Alors certes, on est jugé sur la bonne direction qu'on prend. Je conçois parfaitement qu'on ne soit pas parfait aujourd'hui. C'est évident, on le sait bien. Simplement, la direction qu'on a prise est la bonne. Et en tout cas, on est soutenu de ce point de vue par les pouvoirs publics. Quelles que soient les couleurs des gouvernements, on a toujours été soutenu et considéré parmi les bons élèves. Alors, je ne peux pas laisser dire n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai tenu à mettre un certain nombre de choses au point.
Cette étude, on la prend au sérieux. Nous l'avons commandée, on n'y était pas obligé. Et comme on la prend au sérieux, on va continuer. Je vais proposer, le budget est voté, mais il y a une petite une fin de cette étude qui devra compléter nos analyses et permettre d'aller plus loin dans la décision, en tout cas nous aider la décision pour orienter les politiques en faveur de la qualité de l'air. On voudrait aller plus vite. On a mis 2 ans avec l'État à finir par signer la convention ville respirable. On a échangé avec l'État qui revoyait ses politiques, ses exigences, etc. On a mis 2 ans à le faire. Je vous assure que mon service aurait préféré avoir les actions directement et les mettre en place plutôt que refaire les rerédiger des rapports et les rerédiger encore une fois. Donc on aurait gagné du temps. C'est comme ça, il faut qu'on fasse avec. Ensuite, pour ce qui est de notre engagement, Franck l'a dit sur Ville Respirable, sur le TFCV, etc. Mais aussi, je l'ai dit tout à l'heure, pour Citergy, c'est aussi une démarche volontaire de notre part qu'on fait avec l'ADEME. Citergy, c'est un label européen avec des critères précis. Et dedans, il y a un volet qualité de l'air qu'on devra alimenter des propositions des élus, des techniciens, mais aussi des acteurs du territoire, associatifs, entreprises, devront alimenter. Et cet outil nous servira à faire des actions derrière. Il y a le plan climat, air, énergie territoriale qui va être fait par l'AGLO. C'est une obligation légale pour les EPCI de plus de 20 000 habitants.
La plateforme de rénovation énergétique.
Voilà, il y a ça. La plateforme de rénovation énergétique qui est lancée par le pays qui va accompagner les habitants à rénover leur logement. Ça va être long. Parce que les habitants, c'est chaque logement est compliqué, il faut trouver des financements derrière, mais c'est un outil qui est mis en place et qui va aider. Ça existe dans des territoires où on a vu des choses formidables refaites pour la transition énergétique, pour rénover les logements. Alors dessus, on a réduire sa consommation d'énergie, mais on a aussi amélioré la qualité de l'air. Et pour ce qui est de la qualité de l'air aussi, c'est une chose que j'ai vue avec mon service, quand il y a la qualité de l'air intérieur aussi, c'est important d'en parler, parce que parfois, souvent, l'air intérieur des appartements ou des maisons est plus pollué que l'air extérieur parce que on a des mauvaises pratiques sur les produits ménagers, sur les bougies, les encens, les mauvaises aérations, les mauvaises ventilations des logements avec des moisissures, c'est ça qui apparaissent. Ça, c'est des choses aussi très importantes. Et on a aussi des maladies qui se créent à partir de ça. Donc, c'est pas que dû à l'air extérieur, mais tout ça, c'est un panel d'actions à mettre en place. Et je finirai enfin, j'épargnerai évidemment le disque vert, l'aide au vélo électrique, les stations de gonflage que vous avez vues, ce sont des actions qui servent à la mobilité durable. L'autopartage qui va être inauguré dans quelques jours. C'est l'agglomération, mais associée avec le service développement durable de la ville, qui va recruter dans les prochains mois un ou une ambassadeur, ambassadrice, si on parle d'écriture inclusive. Mais on a cet appel à projet qui a été lancé par la région et l'ADEME, dont l'agglomération d'Épernay a été lauréate, et on aura une personne qui va être là pendant 3 ans sur la mobilité durable et qui devra actionner tous les leviers de la mobilité durable en termes de vélo, en termes de marche à pied, en termes de véhicules propres, en termes de limitation des poids lourds également. Ce sont des choses, évidemment, à actionner. Il faut le faire, on le sait. On ne va pas interdire du jour au lendemain. On l'a déjà dit ici, ce n'est pas notre volonté d'interdire, d'une part parce que ça ne marche pas,
c'est-à-dire que le message n'est pas entendu, et d'autre part, les entreprises, les acteurs locaux ne sont pas encore prêts, forcément. Et il faut les inciter, mais voilà, il y a un investissement économique à faire, il y a des choses qui se mettent en place, ça prend du temps. J'aimerais que ça en prenne le moins possible, évidemment, mais on sait que ça prendra du temps. Voilà. Il y a des choses qui sont... on ne peut pas y couper, en tout cas, mais on veut aller loin, on veut aller vite aussi en développement durable, mais on n'est pas tout seul, il faut accompagner les autres avec nous, et ça ne sera pas du jour au lendemain. Mais sachez que notre volonté est intacte. Le service développement durable a été étoffé aussi pour aller dans ce sens-là. Les labels ne sont pas que des labels pour faire beau sur la plaquette, c'est aussi parce que derrière il y a les financements et parce que derrière il y a les contrôles qui sont faits drastiques de l'État. Et mon service doit alimenter des justificatifs, et là c'est plus la rédaction du truc, mais c'est la re-rédaction des justificatifs et d'alimenter quand il manque le feuillet B14 pour machin. Donc ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps, et pendant qu'on fait ça, on fait moins d'actions sur le terrain. Mais je vous assure de ce recrutement qui va se faire par l'agglo, parce que ça se fait en lien avec mon service. Et il y aura des budgets dédiés, évidemment, avec derrière aussi des financements sur des études, sur des actions de sensibilisation, de transformation. On est d'accord. Mais c'est ce qu'on veut. On est d'accord.
Les études sont nécessaires aussi. La preuve.
Il faut bien partir d'un diagnostic pour faire des actions. Moi, je ne suis pas un fanat des études pour faire tirer du papier, etc. Il faut derrière des actions, on est d'accord.
Il y a aussi de la volonté politique de faire des choix. Et souvent, ça ne se traduit pas forcément par des engagements financiers. Ça s'entretient par des actions volontaristes de terrain ou détermination de la population, ou faire en sorte que la population soit déterminée à aller dans un sens commun. Et je crois que là, c'est des éléments qui n'impactent pas forcément de manière budgétaire. Donc il y a aussi à prendre en compte cette dimension-là.
On va aménager un nouveau quartier, Berge de Marne, qui va être un nouveau quartier du 21e siècle. Donc il faudra une mobilité, une circulation digne d'un 21e siècle, c'est-à-dire avec des mobilités douces. On a un quartier, bien sûr, puisque le quartier n'est pas fait aujourd'hui, mais c'est un quartier qui demain, c'est une carte blanche. Il y aura deux immeubles, enfin deux, trois bâtiments qui vont rester, mais demain, on a carte blanche pour faire ça. Donc évidemment, il faudra le faire à la mode d'aujourd'hui, si je puis dire. Et on a engagé une étude, excusez-moi, mais sur la zone de circulation restreinte pour voir où on peut mettre les curseurs et voir comment ça peut être le mieux possible. Tout ça, on n'est pas obligé de le faire. Il n'y a pas de normes réglementaires, il n'y a pas de contraintes administratives. C'est une volonté politique de le faire.
Madame Perrin, pour un dernier mot.
C'est aussi une volonté de service public. Parce qu'à un moment donné, le tout voiture, les parkings en centre-ville, plutôt que de les mettre en périphérie et après de mettre des bus pour faire des navettes, pour amener les gens en centre-ville. Enfin voilà, il y a aussi des choses que nous, on prône depuis longtemps, la baisse des coûts du transport public, la gratuité pour les élèves, pour les personnes âgées, etc. Il y a des moyens de développer aussi. On n'a qu'à aller à la gare. Il y a encore 5 ans, il y avait plus de trains pour aller à Reims, pour aller à Châlons, pour les trajets quotidiens.
Il y a autant qu'en ce moment pour aller à Reims.
Vous l'avez dit...
Il y a 23 trains par jour.
Vous l'avez dit dans l'Union d'aujourd'hui, c'est bien dans l'Union d'aujourd'hui où vous parlez de l'enfer des véhicules entre Épernay et Reims.
Ah non, c'était il y a quelques jours.
Oui, il y a quelques jours. Voilà. Bon. Mais on voit qu'à un moment donné, le transport public est aussi prégnant dans notre vie. Et, bon, vous l'avez dit, Épernay, c'est une cuvette. Si on laisse les véhicules à l'extérieur de la cuvette, ils ne rentrent pas et ils ne polluent pas.
Oui, mais ça, c'est...
Ça n'a pas d'impact sur la pollution. Ouais,
c'est simple, comme c'est simple à dire, mais c'est pas aussi évident. Je ne sais pas comment les palettes de champagne qui sortent des caves de champagne, il faut bien qu'elles soient expédiées, qu'il faut bien qu'il y ait un camion qui vienne les chercher.
Mais les gens qui viennent faire des courses à Épernay, il y a pas mal de villes qui font ça, où il y a des parkings qui sont périphériques et les commerçants n'en souffrent pas puisqu'il y a des transports en commun qui les amènent au centre-ville et qui les ramènent au parking.
Oui, mais ça, madame, c'est de la théorie. C'est de la théorie. En pratique, ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, c'est des orientations qui nécessiteront une prise de conscience de la part de l'ensemble des acteurs sparnassiens parce que, évidemment, il faudra que chacun d'entre nous autour de la table fasse évoluer ses comportements. Aucun d'entre nous ici n'est exemplaire parce qu'il continue d'utiliser une voiture thermique ou une chaudière chez lui qui a plus de X années, etc. Mais l'important, c'est de savoir la direction dans laquelle on doit aller et de savoir qu'au prochain renouvellement de son véhicule ou qu'au prochain rachat de sa chaudière, il aura intérêt à prendre, etc. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Bien, je vous remercie en tout cas pour ce... Je vous remercie pour ce débat. Prochain conseil, c'est quand ? 18. Prochain conseil, 18 décembre. 18 décembre.
Tu vas aussi demain ? Tu vas aussi demain ?